L'apôtre Paul était un apôtre qui n'avait pas peur de dire ce qu'il avait envie de dire. Et ce matin, ce qu'il nous dit à travers la parole, c'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et ça, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Alors, c'est vrai que sous l'influence à la fois cachée et puissante de l'Esprit de Dieu, lorsque vous vous êtes converti, eh bien, il y a eu un retournement en vous et vous avez donné à votre vie une nouvelle orientation. Au sens strict du mot, hein, c'est ce que veut dire le mot conversion, vous vous êtes converti, c'est-à-dire vous vous êtes tourné, vous avez changé de chemin. Alors, la question qui se pose, à quoi cela servirait-il finalement si on devait en rester là? C'est-à-dire qu'on a fait un demi-tour sur nous-mêmes et puis on reste bloqué là. Une décision qui, finalement, qui n'est pas suivie d'exécution est sans force et sans valeur. Bien vite, cette décision, eh bien, elle s'efface et elle s'annule. Et on voit ça dans nos vies, lorsque nous prenons une décision et puis que, finalement, on n'arrive pas à la suivre dans n'importe quel domaine que ce soit, eh bien, on l'oublie et puis c'est comme si elle n'avait pas existé. Et lorsque nous nous donnons au Seigneur, eh bien... on l'a résolu, on va résister au mal. Et que la tentation, d'ailleurs, vienne du dedans ou du dehors, et sous une forme ou sous une autre. Et on va essayer de s'adonner au bien plutôt qu'au mal. Et tous les jours que Dieu fait, vous aurez d'une manière ou d'une autre l'occasion de faire le bien, tous les jours. Et comme l'apôtre Paul venait de nous dire ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, il nous demande de dépouiller le vieil homme. Alors, ce n'est pas uniquement pour les hommes, hein, c'est l'homme en tant qu'humanité, hein, dépouiller le vieil homme ou la vieille femme. C'est-à-dire que ce que vous étiez avant, sans que ça se fasse de façon un petit peu magique, lorsqu'on se convertit, eh bien... les mauvaises choses ou les mauvais choix que vous faisiez, eh bien, vont s'éliminer progressivement. Et l'apôtre Paul dira de revêtir l'homme nouveau ou la femme nouvelle. C'est-à-dire que l'homme et la femme que vous êtes appelés à devenir, et encore une fois, qui n'apparaît pas magiquement, eh bien, peu à peu, va se former et se constituer. Alors, ce travail intérieur, ce travail sur nous-mêmes, sur moi-même, eh bien, va nous amener progressivement, et ce n'est pas être ambitieux ou vaniteux de dire qu'elle va nous amener progressivement à la sainteté. C'est pourquoi eh bien, ce travail de toute une vie, et tous les chrétiens qui sont chrétiens depuis des années savent que c'est un travail de toute une vie, eh bien, va nous amener par ce phénomène qui s'appelle la sanctification. Et c'est ce que Dieu veut. Alors, n'oublions pas que le Seigneur nous a dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors, il faut vraiment prier le Seigneur que dans nos cœurs, nous voulions ce qu'il veut. Ce que tu veux, Seigneur, concernant ma personne, et ce que tout ce qui est contraire à toi, eh bien, soit retranché, soit enlevé. Et c'est ce que tout ce qui est selon sa volonté, la volonté de Dieu, eh bien, s'y trouve. Afin que, et encore une fois, c'est la parole qui nous dit, que nous soyons trouvés parfaits et accomplis et qu'il ne nous manque rien. Ça, c'est la sanctification. Chaque jour, il faut nous appliquer à ressembler davantage à Jésus. Alors, ce n'est pas toujours facile. Alors, il y a un moyen. Le Seigneur, par l'intermédiaire de sa parole, nous enseigne que en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » C'est une belle image, hein, de savoir que Dieu nous considère comme un champ et qu'il va travailler sur nous. Alors tous ceux qui ont fait un petit peu de jardin ou qui sont agriculteurs, eh bien, savent que pour qu'un champ donne du rendement, eh bien, il faut le travailler, il faut le labourer, il faut l'amender. Eh bien, c'est exactement la même chose. Est-ce que nous pouvons rester sans rien faire? Est-ce que nous allons pointer au chômage pour Dieu? Est-ce que nous allons pointer, et j'ai fait un petit jeu de mots, à l'Agence nationale pour enfants démotivés, à la NPE? Est-ce que nous pointons? C'est une question qu'il faut nous poser. Alors, il y a beaucoup de passages à ce sujet, notamment en Philippiens, chapitre 2, verset 12. Et là, il parle du salut. Il dit « Ainsi, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous. » Eh bien, faites-le encore plus maintenant que je suis absent. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe. Menez à bien votre salut humblement avec respect. Il y a d'autres traductions qui disent travaillez à votre salut et d'autres qui disent mettez votre salut en action. Et je trouve que cette traduction, menez à bien votre salut humblement avec respect. Car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. En leur présentant le message de vie, ainsi, je pourrai être fier de vous au jour de la venue du Christ, car mon travail et ma peine n'auront pas été inutiles. Donc vous voyez le plan qu'a prévu Dieu pour nous d'être ses ouvriers. Et l'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes transformés par l'action de l'Esprit du Seigneur. Et ça serait difficile de vouloir nous convertir et nous sanctifier par nos propres moyens. Ça, c'est impossible. Alors, c'est vrai, en effet, pour manifester et pour déployer sa vertu, que Dieu vient habiter en nous. Ce n'est pas pour nous glorifier, c'est pour montrer tout l'amour de Dieu. Dieu, en plus, n'agit pas sans notre consentement. On a parlé de la porte, là, tout à l'heure. Il faut que nous aussi, nous poussions cette porte. Et Dieu, non seulement nous veut consentants, mais il réclame notre concours. Ça ne veut pas dire que Dieu a besoin de nous, mais il réclame que nous soyons consentants pour arriver à la sainteté. Il lui faut notre collaboration. Nous ne pouvons pas fermer la porte à Dieu et croire que nous allons pouvoir marcher dans la sanctification. Des efforts pour vaincre et chasser le mal, des efforts pour saisir ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. Des efforts pour lesquels Dieu va nous armer. Il ne nous laisse pas tomber. Il va nous donner des armes pour ça, et vous les connaissez. Mais sans lesquelles Dieu ne peut rien pour nous. Alors, des efforts, non seulement un jour ou l'autre, non pas seulement de temps en temps, mais tous les jours. Et tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui vivent, qui essayent de vivre en Jésus, savent que nous avons des efforts à faire. Nous ne pouvons pas faire ça comme ça en dilettante. Des efforts suivis, renouvelés, persévérants. Et on nous dit que celui-là seul qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. C'est Jésus qui nous dit ça, la persévérance. Alors, c'est vrai que des efforts, vous en faites tous les jours. Le premier effort que je fais, moi, le matin, c'est pour me lever à 6h30. Et ça, je peux vous dire que c'est compliqué. Je dis, non, c'est des efforts. Des efforts pour des sportifs, ceux qui courent, ils font des efforts. Croyez pas que le gars qui s'entraîne pour un marathon, il fait ça dans la joie et l'allégresse quand il doit courir 20 km tous les 2 à 3 jours. Alors, est-ce que les sportifs ou les choses que nous faisons pour faire quelque chose, eh bien, est-ce que c'est bien sûr pour des couronnes corruptibles, est-ce qu'on va les refuser pour la couronne incorruptible, des efforts de persévérance? Alors, le Seigneur nous appelle non seulement à nous préoccuper de notre salut, savoir si nous sommes sauvés ou non, mais d'y travailler, à travailler en usant de clairvoyance et de fermeté pour nous-mêmes, à travailler d'une manière suivie et fidèle. Et donc, il faut que nous appelions Dieu pour qu'il nous arme du bon combat selon les promesses qu'il nous a faites. Quelles sont ces promesses? Il va nous envoyer l'Esprit Saint pour nous aider. Mais il faut l'accueillir dans son cœur pour qu'il puisse travailler. Nous ne pouvons pas dire « Ah oui, l'Esprit Saint ». Non, il faut l'accueillir, il faut avoir un cœur ouvert. Alors, c'est vrai qu'il y a un proverbe en français qui dit « La persévérance vient à bout de tout ». Et vous savez, la persévérance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fermeté, c'est la constance dans la foi et dans la piété. Et j'ai pris cette définition-là dans un dictionnaire qui date de 1959. Je ne suis pas sûr que la définition maintenant de la persévérance soit la même. Fermeté, constance dans la foi et dans la piété. Et vous savez, comme dans les dictionnaires, il y a toujours ce qui est contraire. Eh bien, le contraire, c'est être versatile et inconstant. Alors, la persévérance dans quoi? Ben, il faut... Vous savez, Richard nous a parlé d'un livre. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer. Parce qu'elle est notre source de force. Je ne sais pas si, quand vous revenez de l'église, vous vous sentez plus fort. J'espère que vous vous sentez plus fort, parce qu'on a été encouragé par les chants, par les présentations et par l'exhortation. La lecture de la Bible et sa méditation est tellement importante. Et puis, la présence à l'Assemblée. Vous savez, le Seigneur n'a pas créé l'église comme ça... « Bon, tiens, on va créer un petit groupe. » Non, est indispensable que vous ayez cette présence à l'Assemblée pour nous rappeler, comme nous l'avons fait il y a quelques minutes, du repas du Seigneur. C'est indispensable. Alors, j'ai lu un livre c'est un auteur que j'ai connu par la prédication d'un pasteur à Bobigny, quand je vais à l'église chez Anne et Callaghan. Il s'appelle William Tozer. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, moi je ne le connaissais pas. Il a dit des choses extraordinaires. Il a dit que toute sa vie, parce qu'il est décédé, hein, c'était quelqu'un qui a vécu au XXe siècle, toute sa vie, il a été à la poursuite de Dieu. Il n'a pas écrit moins de 30 livres sur Dieu et sur la foi. Et c'était un homme de prière. Il passait énormément de temps dans la prière. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit avoir. Et il avait toujours un petit carnet dans sa poche et il notait les prières qu'il devait faire pour lui-même ou pour l'Assemblée et pour les gens qui l'entouraient. Et il a eu pas des centaines de carnets, mais des dizaines de carnets remplis qu'il remplissait, et il priait tous les jours. Il a dit « La prière est l'occupation la plus sacrée à laquelle une personne peut s'affairer. » Ça, c'est de la persévérance. Prier, étudier la parole, se concentrer sur Dieu. Et il a écrit un bouquin qui est intéressant. Il a écrit « Le monde est-il une aire de jeu ou un champ de bataille pour les chrétiens ?» Et souvent, même parmi les chrétiens, eh bien, au lieu d'être un champ de bataille où il faut persévérer, il est devenu une aire de jeu. Je m'explique. Et ça, c'est une vision fausse de la vie du chrétien. Vous savez, il y a des exemples partout dans la Bible, et c'est pour ça que c'est important de la lire, il y a des exemples partout dans la Bible qui montrent des gens qui ont lutté toujours pour conserver leur foi et leur amour pour Dieu. Il y en a un qui est fantastique, c'est Daniel. Daniel qui est pris quand il est jeune et on l'emmène, il est exilé, il est déporté, c'est un migrant. Il se retrouve à Babylone et c'est un garçon qui est intelligent. Il est remarqué parce qu'il est intelligent. Et il va rester, malgré la position sociale qu'il va avoir, puisqu'il va devenir un des chefs de Babylone, et il va rester humble et il ne va pas tout accepter. Oh, il aurait pu redevenir un people de la hiérarchie babylonienne. C'est pas ce qu'il va devenir. Il va même aller contre les édits du roi. Il va prier. Il ne va pas fermer sa fenêtre pour qu'on entende qu'il prie. Et dans la fosse aux lions, il ne va jamais rejeter son Dieu. Alors vous croyez que pour lui, Babylone, c'était une aire de jeu ou un champ de bataille? Et souvent, nous avons tendance, nous les chrétiens, à nous tourner dans deux directions. On se réjouit en Christ et dans le monde en même temps. Et on déclare allègrement tout accepté, de telle sorte que le fait d'accepter Jésus ne nous oblige pas à abandonner les plaisirs du monde. Souvent, on en est là. Alors, on est finalement, en tant que chrétien, dans une sorte de boîte de nuit sanctifiée. On continue à avoir les plaisirs du monde, mais pourtant, on garde la présence de Jésus dans nos cœurs. Et ça, c'est devenu fréquent. Et il incombe à chaque chrétien, de réexaminer, je dirais, sa philosophie spirituelle à la lumière des Écritures. La persévérance dans la lecture de la Bible nous permet de nous orienter et d'aller vers ce que Dieu veut. Et lorsqu'on a trouvé ce chemin de la Bible, de scripturaire, eh bien, on doit persévérer, même si pour cela, eh bien, nous devons nous séparer de choses qu'on avait acceptées comme vraies, mais qui, à la lumière de la vérité, s'avèrent être fausses. Il faut absolument, pour avoir une vision juste de Dieu, de ce qu'il veut pour nous, il faut et de ce qui va nous arriver après, eh bien, il faut que nous ayons une vision juste du monde qui nous entoure. Si nous n'avons pas une vision juste du monde, si nous ne savons pas dire ce qui est bien ou ce qui est mal, eh bien, nous n'aurons pas une vision juste pour notre vie. Et il faut vraiment s'accrocher à ça, parce qu'il y a tant de choses qui dépendent de notre jugement du monde que nous avons. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents sur le monde qui nous entoure. Parce que si nous sommes négligents, eh bien nous allons accepter, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons nous trouver dans une boîte de nuit sanctifiée. Alors bien sûr, il n'y aura peut-être pas de beuverie ou de costard avec nos papillons, mais nous sommes quand même dans cette boîte de nuit. Alors attention, la preuve de notre foi, c'est notre persévérance et notre dévouement à notre foi. Nous devons absolument avoir cette idée-là. Et une croyance qui n'a pas autorité sur celui qui la professe n'est pas réellement une croyance. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est terrible, terrible pour un chrétien de faire des choses qui même choquent parfois les gens du monde. Terrible, parce que nous sommes en porte-à-faux. Et cette croyance, finalement, devient une pseudo-croyance. Alors, sommes-nous capables de mettre notre foi à l'épreuve dans le feu de la vie quotidienne? Parce que c'est ça. Ne croyez pas que vous êtes dans un monde, que ça soit une aire de jeu, non. Le monde qui nous entoure n'est pas une aire de jeu. Nous devons mener un combat pour persévérer dans notre foi. Et nous devons posséder une vraie foi avec de l'endurance. Alors, il y a ce passage qui était donné, c'est « Chers frères et sœurs, chers amis, tenez donc ferme. » Il faut que nous serrions les coudes. Et c'est pour ça que c'est tellement important que nous nous retrouvions comme ce dimanche pour nous encourager, nous exhorter. On n'est pas meilleurs que les autres. On a besoin de la présence de l'Esprit-Saint dans nos vies et de la présence de nos frères et de nos sœurs. On ne peut pas faire autrement. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a créé l'Église. C'est pour pas qu'on soit tout seul. Alors, il y a plein de gens qui vous diront « Oui, mais moi, j'ai ma relation avec Dieu et je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. » C'est une vision fausse de l'Écriture. L'Écriture nous engage. Vous vous rendez compte que Jésus compare l'Église à une femme qui est mariée avec son mari. Que dire de cette relation? Elle ne peut pas être plus forte. Nous ne pouvons pas passer à côté. Donc, je répète avec l'apôtre Paul, demeurez ferme dans votre espérance. Amen.
avec le sous Lévitien en ce qui concerne la persévérance.